RCF.
Bonjour à tous, cette effervescence, on se retrouve comme chaque semaine pour célébrer la culture, les auteurs, les autrices et tous les artistes qui nous donnent des ailes et nous ouvrent des horizons. La culture inspire nos vies et nos vies inspirent les créateurs. On se rappelle tous d'Intouchables, cette comédie d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. Combien elle a changé notre regard sur le handicap? Eh bien, Philippe Pozzo di Borgo, l'homme dont l'histoire était à l'origine d'Intouchables, vient de mourir. Nous lui rendrons hommage car tout chez lui était inspirant. Et surtout, nous verrons comment la culture a accompagné notre changement d'appréhension du handicap. Pour parler handicap et culture, mais aussi pour nous partager leur coup de cœur musical, littéraire, cinématographique ou artistique, ils sont trois cette semaine. Alors je vais commencer par celui qui est le plus loin de moi, Éric Dupri, bonjour.
Eh bien, bonjour de Toulouse.
Voilà, vous êtes avec nous depuis Radio Présence, la radio à Toulouse. Et à Radio Présence, eh bien, vous êtes l'homme de la culture. Avec vous, on découvrira une figure du monde littéraire de votre ville, un libraire à qui l'écrivain Yves Charnay rend hommage dans un petit livre publié dans une petite maison d'édition. Et puis, vous avez toujours une bonne raison de nous faire écouter de la bonne musique. Et cette fois-ci, c'est le Festival de Toulouse qui se déroulera début juillet. Anne-Laure Filliol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chargée des pages culture à l'hebdomadaire La Vie. Vous êtes de retour du Festival de Cannes. Si, vous avez participé au jury œcuménique. Vous avez récompensé le film de Wim Wenders.
Perfect Days.
Perfect Days, il sort
Bientôt.
Bientôt.
Dans quelques mois plutôt.
Hein. On en reparlera. Vous nous parlerez cinéma avec un film éprouvant sur l'emprise dans le couple et comment s'en libérer. Ça s'appelle L'amour et les forêts. Et puis vous avez vu une exposition qui vient d'ouvrir ses portes. C'est à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Elle s'intéresse au travail de Degas sur le noir et blanc. Donc beaucoup d'estampes, de dessins et même de photographies. Agnès Manoret-Onil, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez pour la revue Études, la revue des Jésuites. Vous êtes allée au Quai Branly voir une exposition consacré aux premières photographies. Et puis, vous nous avez apporté un livre, prétexte à écouter de la bonne musique. Ça s'appelle Où la chanson va. C'est d'une maison d'édition suisse et c'est signé Sébastien Ménestrier. Voilà, vous savez tout. On peut commencer Effervescence.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Je me suis dit ce matin que j'allais vous parler d'archéologie préventive. Alors ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, car cette discipline m'a toujours fascinée. Non pas le fait que pour quasiment chaque nouveau parking, chaque nouveau centre commercial, chaque nouvel immeuble, il faille faire des fouilles archéologiques, mais parce qu'une fois que les archéologues ont creusé, gratté, fouillé, collecté, recensé, et parfois trouvé des sites improbables, eh bien le plus souvent, il faut refermé. Voilà, la vie doit continuer, non pas celle d'en dessous qui a eu une fin un jour, mais celle du dessus qui a besoin de ses parkings, de ses immeubles et de ses centres commerciaux. Oui, il faut laisser les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Cela n'empêche pas que parfois la découverte est trop belle, la trouvaille est d'intérêt majeur, alors on se serre un peu et on fait une place à ce qui a été préservé à travers les siècles. Mais la plupart du temps, on referme et c'est sagesse. Tout cela est possible parce que tout cela est bien organisé, tout cela est réglementé. Ok, on donne du temps aux fouilles car on sait qu'après on pourra construire. Alors j'entends ceux qui dénoncent la lourdeur de ces procédures en France, que nous serions bien incapables de construire en 3 mois un hôpital comme on l'avait vu en Chine du temps du Covid. Oui, mais dès que ce précieux protocole dérape, dès qu'une faille dans les procédures administratives, dans les contraintes des autorisations est révélée, eh bien nous pleurons à chaudes larmes. Ainsi, ces derniers jours, avons-nous appris qu'au moins 38 petits menhirs avaient été détruits du côté de Carnac pour permettre la construction d'un monsieur bricolage. On reste abasourdi. 7000 ans que certaines de ces pierres levées faisaient le guet à cet endroit et il n'en reste plus rien. Bon là, on n'est pas du tout dans la démarche de l'archéologie préventive. Aucune fouille n'a été organisée avant d'envoyer les bulldozers. Bon, je vous dis tout ça, mais dans Libération, on apprend que pour la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, tout va bien. Il n'y a pas eu d'erreur. La portée archéologique du site n'est pas établie. On aurait bien aimé qu'on prenne un peu plus de temps pour établir ou pas cette portée archéologique. Et ce n'est pas Monsieur Bricolage qui me contradira, car comme mauvaise pub, on fait pas mieux.
Il y avait plusieurs titres et j'ai trouvé qu'Intouchable était très joli. Parce que, bien sûr, Intouchable, on pense à la casse des Intouchables et tout ça, mais dans ce titre, il y a une lettre qu'on n'entend pas, qui est la plus importante. Et c'est le S muet du pluriel, vous voyez. Et c'est ce intouchable, c'est-à-dire que chacun de nous qui sommes intouchables par notre handicap, par notre exclusion, par nos misères, mis ensemble au pluriel, on peut se retrouver, se reprojeter dans la vie, dans la société. Et c'est cette solidarité, oui, ce intouchable de pluriel.
Ce S est important.
C'est le S qui est important.
En 2011, dans l'émission Visage sur RCF, au micro Thierry Lyonnais, Filippo Zodiborgo réagissait à la sortie du film Intouchable d'Éric Toledano et Olivier Nakache, un film dont il était le héros, lui et son auxiliaire de vie. Un film qui nous a fait beaucoup rire, mais un film qui a contribué à faire changer le regard sur le handicap. Oui, rire du handicap était possible. Non, les personnes dans cette situation n'avaient pas besoin de notre pitié. Oui, leur témoignage pouvait nous aider à vivre.
Et la jupe, elle est où, là?
Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir.
Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça?
Attends. Bon appétit.
S'il vous plaît. Oh,
C'est qui, ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état.
Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large?
Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où?
Respirez un peu.
Ça y est, les voilà. 100 euros que je les mets dans le vent.
Tenez.
Omar Sy, François Cluzet, Intouchable. Petit tour là pour savoir quels souvenirs vous gardez de ce film, Agnès Manoret-Onil.
Alors moi j'ai vu ce film plusieurs années après sa sortie parce que je me méfie, je l'avoue, toujours un peu des films qui tirent sur la corde des larmes et du rire en même temps, sur un grand sujet de société qui est censé toucher tout le monde, sur un sujet qui me touchait personnellement. Et je me suis laissée prendre. J'étais la première surprise parce que j'ai rigolé et que la performance d'acteur était absolument exceptionnelle. Je suis contente que le film ait joué un rôle social. Maintenant, sur la question du handicap, je partage pas forcément la vision qui, voilà, la vision qui en ressort, mais il a joué son rôle et c'est ça qui est le plus important.
Anne-Laure Filleul, vous quel souvenir vous gardez de ce film?
Ben alors moi, comme Agnès, je l'ai vu des années après sa sortie et j'étais aussi un petit peu méfiante. Et pareil, je me suis laissée prendre, donc je l'ai vu, je sais plus, il y a 2-3 ans. Et ben parmi les choses, moi, qui m'ont marquée, enfin en tout cas qui m'ont touchée, c'est cette relation entre avec l'aidant et cette personne qui ne réduit jamais la personne porteuse d'un handicap à son handicap. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien rendu. Et j'ai trouvé que l'humour, la place de l'humour et de l'autodérision était aussi extrêmement bien rendue et mise en scène.
Éric Dupri, je crois que vous n'avez pas vu ce film.
Alors moi, 12 ans après, je ne l'ai pas encore vu, vous voyez. Alors j'ai vu des extraits comme tout le monde. Hein. J'ai un peu les mêmes préventions que Anne-Laure, je crois. C'est Anne-Laure qui disait que mélanger le...
Anne-Laure et Agnès. Hein.
Et Agnès, oui, alors, toutes les deux. Le mélange du rire et des larmes comme ça sur des sujets bon, où il est assez facile de tomber dans le mélo. J'ai aussi un peu de mal comme ça. C'est un a priori, hein, qui est sans doute comme tous les a priori et contre lequel il faudrait lutter. Mais je n'ai pas vu. Les images que j'en ai vues, par contre, m'avaient l'air très belles. Je pense que c'est bien filmé. C'est sans doute très, très bien joué. Je n'ai pas de doute là-dessus. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. La question que je pourrais me poser, c'est pourquoi je ne l'ai pas vu, alors qu'il est passé effectivement plus à la télévision. Mais bon, il est vrai que je ne vais plus trop au cinéma, contrairement à ce que je faisais beaucoup à une époque. Je vais au concert, moi, maintenant, vous voyez.
Donc, voilà, on ne peut pas tout
partout.
Faire.
Non.
Anne-Laure Filleul, il y a Intouchable et il y a d'autres films hein, qui sont importants quand on évoque la question du handicap au cinéma. Et puis, vous nous parlerez aussi de la télévision, où là, on a fait énormément de progrès. On évoque Rain Man ou on...
Ah bah oui, volontiers.
Alors, Rain Man.
Parce que Rain Man, bah, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué et que j'ai vu plusieurs fois, avec toujours autant de plaisir. Donc, c'est un film qui est sorti en 88, où jouent Dustin Hoffman et Tom Cruise. Et ces deux personnes sont frères. Dustin Hoffman est touché par l'autisme et Tom Cruise, lui, est un homme d'affaires, un businessman très très argenté. Et le jour où le père de ses deux frères meurt, ces deux frères doivent se rencontrer parce que en fait, Tom Cruise a complètement coupé les ponts avec son père et apprend que donc son frère qui est atteint d'autisme a tout l'héritage. Donc il n'est absolument pas d'accord et donc il va être confronté à son frère, mais aussi à ce frère différent qui est d'ailleurs supérieurement intelligent, mais voilà, qui son autisme fait que il est très différent. Et donc au début c'est extrêmement houleux, véhément en tout cas de la part de Tom Cruise. Et au fil du temps, parce qu'ils vont voyager ensemble aux États-Unis, parce qu'ils sont obligés de, enfin voilà, ce voyage a un but en soi. Lui, Tom Cruise veut récupérer l'héritage, et en fait il va se laisser complètement transformer par son frère autiste, porteur de ce handicap. Et je dirais que c'est un film c'est un film qui parle de conversion, parce que c'est qui forme de retournement intérieur. On voit vraiment Tom Cruise, qui est d'ailleurs un homme très très froid, très rigide, complètement grignoté par le pouvoir et par l'argent, se dilater peu à peu et se laisser émouvoir par son frère. Donc c'est vraiment un film que je recommande.
Alors cette histoire de conversion, de rencontre, c'est un peu la même histoire qu'on retrouve quelques années plus tard avec le film Le Huitième Jour, sauf que là, c'est pas tout à fait le même handicap.
Là, il s'agit de trisomie 21. Donc là, c'est Daniel Auteuil et Pascal Duquesne qui jouent. Et Daniel Auteuil est un cadre supérieur quitté par sa femme. Et la vie va le faire rencontrer un Georges qui est trisomique.
On écoute la bande-annonce.
Mexico, Mexico.
Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et de votre banque.
J'ai trouvé un type là, je voulais l'amener, je crois qu'il est un peu handicapé.
Vous voyez bien que je suis seul ici.
C'est pas à moi à m'occuper de ça, c'est à vous. On paye des impôts pour ça.
Moi, j'avais un chauffeur.
Quel genre de chaussures désirez-vous?
Ben, c'est lui qui veut des chaussures.
J'avais un chaussure.
L'amour est un bouquet de violettes.
Je m'occupe pas de toi.
Je voudrais juste embrasser les enfants.
Ne viens pas, n'appelle plus.
Reste calme, 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 calme.
Popouette.
Rigole, rigolez.
Allez, rigole.
Pascal Duquesne et Daniel Auteuil, Le Huitième Jour. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce film, Anne-Laure? Pourquoi est-ce qu'il vous a tant marqué?
C'est un peu comme dans le film de Rain Man. C'est vraiment la rencontre entre deux personnes qui sont toutes les deux avec leur fragilité. Mais je dirais que celle où on ne voit pas en fait cette fragilité, contrairement à celle qui est touchée par le handicap, cette personne finalement va se laisser complètement transformer. Et c'est vraiment le fil rouge de ces deux films.
Alors, on a évoqué deux films. Il y en a d'autres. Ce qui a beaucoup changé, c'est la place du handicap à la télévision. Il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap, c'est mieux, je sais pas.
C'est pareil.
C'est pareil. Beaucoup plus de personnes handicapées, quel que soit le handicap, qui sont à l'écran comme héros de fiction ou dans des émissions.
Oui, complètement. Depuis quelques années, on voit beaucoup de téléfilms abordant cette question. Je peux en citer quelques-uns. Apprendre à t'aimer de Stéphanie Pilonka, qui fait des films ou des documentaires très sensibles et humains. Elle a aussi réalisé J'irai au bout de mes rêves, qui parle de la trisomie 21. Récemment, il y a quelques mois, TF1 a diffusé un téléfilm qui s'appelle Le lycée Toulouse-Lautrec, qui montre une réalité qui est un lycée où des personnes handicapées sont dans la même classe que de personnes non handicapées. Voilà. J'ai l'impression qu'à la télévision, c'est exponentiel et c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, je ne peux pas ne pas parler des rencontres du Papotin sur France 2. Donc là, c'est un format de 30 minutes et c'est une équipe de journalistes atypiques, disons, qui sont atteints d'un trouble autistique, qui interviewent des célébrités. Donc là, on a eu Virginie Efira, Camille Cotin, Emmanuel Macron lui-même, Julien Doré.
Avec des questions sans filtre.
Avec des questions complètement sans filtre. Est-ce que tu as peur de la mort? Et des questions sans filtre et fondamentales, ou est-ce que t'aimes le cassoulet, enfin, c'est-à-dire que, et donc du coup c'est sans filtre, sans phare, et c'est extrêmement émouvant parce que ces célébrités se laissent complètement désarçonner par ces questions, et ça fait énormément de bien.
Éric Dupri, avec vous, on va se rappeler un peu d'où on vient, c'est-à-dire que le cinéma, c'est pas que des bons sentiments et que ça joue aussi sur la corde fascination, répulsion que peut provoquer les personnes handicapées et particulièrement le corps handicapé. Vous voulez revenir sur des films un peu plus anciens?
Oui, alors il y en a un qui est bien plus ancien que tous ceux qu'on a évoqués jusqu'alors, c'est Freaks de Todd Browning. Littéralement monstre, Frex, monstre. D'ailleurs, en France, je crois que c'était paru d'abord sous le titre La monstrueuse parade. Et on parlait tout à l'heure du huitième jour avec Pascal Duquesne. La grande différence avec le film Rain Man, c'est que c'est vraiment un acteur trisomique qui joue le rôle. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Dustin Hoffman dans l'autre film. Et en 1932, quand Todd Browning tourne son film Freaks, c'est avec les vrais, je mets des guillemets, monstres du cirque Barnum. C'est-à-dire que les comédiens, ce sont vraiment les gens qu'on vient voir, je dis bien les gens et pas les monstres, qu'on vient voir par voyeurisme dans ces cirques qui, à l'époque, tournaient un peu partout dans le monde, y compris en Europe. Il faut rappeler l'étymologie du mot monstre tout de même. Monstre, c'est celui qu'on montre du doigt. C'est ça l'étymologie. On le monstre du doigt. Donc on le désigne, c'est toujours quelqu'un d'extérieur. Et ça nous fait réfléchir à qu'est-ce que c'est la difformité. Qu'est-ce que c'est la normalité ou l'anormalité dans une société, qu'elle soit physique ou intellectuelle? Et pour revenir à ce film qui avait été un cuisant échec à sa sortie, hein, qu'il soit critique ou public, il a été censuré pendant plus de 30 ans en Angleterre, parce qu'il avait été tourné avec les monstres du cirque Barnum. Et ça raconte en fait... Alors qu'est-ce qu'on voit comme monstre? Alors il y a des lilliputiens, il y a des sœurs siamoises, il y a un homme qui n'a ni bras ni jambes, l'homme vert. Il est présenté comme ça, l'homme vert qui se tortille. Il y a la femme à barbe. Enfin bon, vous pouvez imaginer un peu tout ça. Et dans l'histoire, il y a un des lilliputiens qui est en couple d'ailleurs avec une lilliputienne qui hérite et qui devient très riche. Il y a une femme, elle, trapéziste, tout à fait valide, une femme magnifique, qui va lui faire croire qu'elle est tombée amoureuse de lui, évidemment pour lui prendre son argent, jusqu'au moment où ça va être démasqué. Et ça se termine par une des scènes les plus, pour moi, les plus marquantes de l'histoire du cinéma, c'est la poursuite dans la boue. Il y a un orage qui éclate, elle se sauve parce que les monstres les courent après, lui courent après pour ceux qui peuvent, et on voit pas ce qui se passe. Et la dernière image, je préfère ne pas en parler pour que ceux qui n'ont pas vu le film puissent aller le voir un jour. Donc c'est une histoire de vengeance aussi. Et on voit en fait dans cette société tous les sentiments qui animent n'importe quelle société humaine, c'est-à-dire l'amitié et l'amour. Il y a des trucs extrêmement drôles, c'est-à-dire qu'il y a une des sœurs siamoises qui a un amoureux, mais alors comment on fait pour avoir de l'intimité avec son amoureux quand on est une sœur siamoise? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc on voit tous ces sentiments, et c'est ça qui change aussi le regard qu'on peut avoir sur eux, c'est qu'on voit qu'en fait ils ont exactement les mêmes sentiments que n'importe quelle personne, mais ils ont leur société, leur code bien à eux, et lorsqu'on se prend à l'un d'entre eux, il y a aussi l'effet de groupe qui joue pour le défendre. Donc ça se termine comme ça. Et l'autre film, alors je ne sais pas si vous vouliez en parler tout de suite ou si vous voulez passer un extrait.
On va passer peut-être un extrait. Donc c'est un film qui est sorti beaucoup plus tard, un film de David Lynch en 1980.
We have a sacred duty to cure the sick, not care for circus animals.
He is English. He is 21 years of age. His name is John Merrick.
He's quite seriously deformed. Don't be frightened, he won't hurt you.
You do not own this man!
I should very much like to meet this gentleman.
Good day, Mr. Merrick.
People are frightened by what they don't understand.
I am not an animal! I am a human being!
Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Elephant Man et cette scène de chasse à l'homme dans les toilettes publiques. On reste bouleversé, hein, Eric, par la vie de cet homme que David Lynch nous a raconté.
Alors d'autant plus parce qu'effectivement, c'est vraiment tiré de la vraie histoire de Joseph Merrick et non pas John. C'est dans les mémoires de Frederick Treves, qui est le médecin qui recueille Elephant Man dans le film qui est joué donc par Anthony Hopkins. Le vrai nom, c'est Joseph Merrick. Et donc, c'est sa vraie histoire tirée donc des mémoires de Frederick Treves. Bah oui, évidemment qu'on est bouleversé par la destinée de cet homme, d'autant plus qu'on sait que voilà, il a vraiment existé. Il y a absolument rien de romancé dans le film de David Lynch. D'ailleurs, c'est à ma connaissance peut-être son seul film, d'une part de facture et de forme assez classique, et d'autre part où il se lance pas dans ses délires un peu personnels qu'il aura plus tard. Et John Hurt est formidable dans ce rôle. L'apparence physique. La façon dont il a été grimé, d'ailleurs c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Ça, c'est vraiment, quand on voit les photos, je ne sais pas si vous connaissez les photos du vrai Elephant Man, du vrai Joseph Merrick, il était vraiment comme ça. Et on imagine ce que qu'a pu être sa vie, le fait que la haute société anglaise après venait le voir, ça faisait chic d'aller prendre le thé avec Elephant Man dans sa chambre d'hôpital. Et la façon dont il meurt à la fin aussi, tout ça c'est exactement la vie qu'il a eue. Et Lynch s'est beaucoup inspiré, encore une fois, pour la forme du film de Todd Browning. Les clins d'œil sont nombreux 50 ans plus tard. C'est un film bouleversant, magnifique, vraiment.
Agnès Manoret-Onil, avec vous, on prend un peu de large, on sort des écrans et on s'intéresse à la littérature. Il y a beaucoup de livres qui reviennent sur la question du handicap et beaucoup évoquent le point de vue des proches et de la famille. Alors, vous en avez sélectionné quelques-uns pour nous.
Oui, alors je voudrais vous parler en particulier du roman de Marion Muller-Collard, Le jour où la Durance, qui est paru en 2018, je crois, et puis de S'adapter de Clara Dupont-Mono, qui est sorti en 2021, dont on a peut-être déjà parlé sur cette antenne.
Oui, S'adapter, on l'avait évoqué dans
J'en parlerai moins. Alors, vous disiez prendre le large. En réalité, on va rentrer dans l'intimité des familles. Et puis, plus encore à l'intérieur de la mère, du père, des frères et des sœurs. Alors, le jour où la Durance, c'est un roman qui se passe sur 4 jours, entre la mort et l'enterrement de Bastien, un garçon très, très lourdement handicapé, frappé d'un handicap profond. Et la mère de Bastien, Sylvia, se mure dans son silence pendant ces 4 jours. Elle va se laisser en fait ronger intérieurement par un chagrin qu'elle a gardé silencieux, complètement renfermée à l'intérieur d'elle-même pendant toutes ces années où elle s'est donnée aux soins de son fils avec une abnégation totale. Dans cette abnégation, il y a aussi une négation de soi. Et puis, à côté de Sylvia, il y a Clotilde, qui est la sœur de Bastien, et qui est née avec ce frère à côté d'elle, ce frère dont elle n'a pas interrogé la question de la normalité, puisqu'il était là, il était avec son frère, et elle a joué avec lui. Et pour elle, c'est plutôt un débordement. Et alors, entre cet enfermement en soi et ce débordement de Clotilde, il y a la Durance, le fleuve la Durance, qui pendant ces 4 jours, en fait, est en train de monter, qui est prêt à submerger, et c'est à submerger les rives du fleuve. Et cette image-là va accompagner tout le roman. Il permet de dire quelque chose qui est très difficile à dire, qui est un mélange de très confus de sentiments, qui est celui de la mère, d'un amour immense pour son fils, mais qui a pu se colorer de beaucoup d'autres choses, du rejet, de la peur,
du soulagement.
Du soulagement aussi, l'oubli de soi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un disparaît? Il y a le vide de Bastien, alors qu'en fait, il a toujours été absent. Et donc, quelle est la différence entre cette absence pendant la vie et puis le vide qu'il laisse maintenant par sa mort? Et alors là, on touche à une particularité qu'on ne voit pas, par exemple, dans Intouchables ou dans d'autres films, qui est la question du handicap mental quand il touche au langage, quand il touche à ce qui nous semble être le propre de l'humain. Et donc là, ça me donne l'occasion de parler peut-être un peu rapidement d'un livre absolument extraordinaire qui est celui d'Elisabeth de Fontenay, Gaspard de la nuit. Donc Elisabeth de Fontenay, qui est une philosophe qui a écrit un des plus grands livres sur la question de l'animal, Le silence des bêtes. Et dans cette autobiographie de son frère, hein, c'est le sous-titre de Gaspard de la Nuit. Elle revient sur ce très long compagnonnage avec son frère, sans doute autiste, enfin le trouble n'est pas nommé, et qui était à l'origine de sa réflexion sur le propre de l'humain. Parce que ça nous renvoie, et ça les romans de Clara Dupont-Mono ou de Marion Muller-Collard le montrent extrêmement bien, le handicap dans la famille renvoie chacun à ce qu'il est profondément, à ce qui fait qu'on peut aimer un autre, vivre avec lui, le comprendre. Et cette expérience-là, c'est vrai qu'elle est peut-être plus difficile à dire au cinéma que par la littérature, où on a tout le jeu métaphorique, en fait, pour dire des choses qui semblent presque impossibles à exprimer.
Alors, on va redire les livres que vous avez cités, Le jour ou la durance de Marion Muller-Collard, Gaspard de la nuit d'Elisabeth de Fontenay, et puis
S'adapter
de
Clara Dupont-Mono.
Voilà. Quelques notes de musique, quelques notes de piano maintenant, hommage au pianiste incroyable Michel Petrucciani, disparu en 1999 après une très très belle carrière, malgré le handicap. September 2nd, Michel Petrucciani dans Effervescence. C'est difficile de parler du regard sur le handicap sans évoquer l'humoriste Guillaume Batz. Atteint de la maladie des os de verre, il se produisait depuis quelques années sur les scènes des festivals. Il est mort le 1er juin dernier, il avait 36 ans. On se rappellera de son humour, de sa capacité à dédramatiser, hein, surtout avec les filles, et puis de son sourire, hein, qui penchait vers la droite. Voilà, je vous renvoie également à l'émission Visage de Thierry Lionnet avec Philippe Ozzo di Borgo, et puis aussi ce mercredi matin, grand moment dans la matinale de RCF, Pierre-Hugues Dubois recevait Olivier Goy. Son film Invincible été est en salle actuellement. Il y témoigne de sa maladie de Charcot et de son amour de la vie, un témoignage bouleversant et joyeux à la fois.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
On continue dans cette émission Effervescence. Alors, on n'est plus vraiment dans la joie avec ce qui va arriver. Anne-Laure Filleul, vous avez été au cinéma beaucoup ces derniers temps et vous avez été voir L'amour et les forêts. C'est un film de Valérie Donzelli. On va écouter la bande-annonce et puis vous nous en parlez juste après.
J'étais folle de lui.
Eh bien oui, je parle fort, parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi?
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
Tu te plains de ton mari?
Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi?
Pardon, excusez-moi.
Pourquoi tu m'as raccroché au nez?
Ah, j'étais en cours.
Tu rentres à quelle heure?
17h, pourquoi?
Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein?
Oui, c'est comme ça. Bah, t'es complètement fou.
Bah, je te parle, mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi.
On n'est vraiment pas dans la joie. C'est un film sur l'emprise, c'est ça ?
C'est un film sur la mécanique de l'emprise et une certaine emprise de la perversion narcissique. Alors je sais que c'est une expression qui est extrêmement galvaudée. D'ailleurs, le film de Mai Wen intitulé Mon Roi il y a quelques années avait suscité quelques débats sur est-ce qu'il s'agit d'un pervers narcissique ou pas, enfin Vincent Cassel. Là, dans L'amour et les forêts, si vous voulez avoir une expertise clinique de ce que c'est qu'un pervers narcissique, allez le voir. Alors oui, c'est très dur, c'est très très éprouvant, mais c'est extrêmement bien joué et intéressant au niveau psychologique. Donc si je peux vous planter le décor, si vous voulez, donc c'est Virginia Efira qui joue une certaine Blanche Renard, et Melville Poupeau, Grégoire Lamoureux, donc qui porte bien son nom. Donc les deux se rencontrent au début du film, ils tombent follement amoureux, follement, mais d'ailleurs follement, je souligne le follement, mais très vite, ce Grégoire l'amoureux se montre possessif, mais tout ça c'est à petite dose au départ, on voit quelques signaux, donc il se montre possessif, jaloux, exclusif, et elle laisse faire. Donc ça aussi, première, enfin voilà, quand on est spectateur et qu'on sait, on se pose la question, mais pourquoi laisse-t-elle faire ? Mais donc là, il y a la mécanique de l'emprise qui est en marche et l'idylle, comme vous entendez dans la bande-annonce, ils sont follement amoureux, tourne vite à l'enfer. Donc il la sépare de sa famille, il la harcèle au téléphone alors qu'elle est en train de travailler et l'étau se resserre. Et là, c'est là qu'on rentre vraiment dans le... On sort pas de la comédie romantique, mais de l'idylle... l'idylle magnifique en thriller psychologique. On commence peu à peu à suffoquer avec Virginia Efira qui joue extrêmement bien. Et Melville Poupeau d'ailleurs est implacable et magistral dans son rôle de pervers narcissique. Il joue extrêmement bien le séducteur qui se transforme en monstre violent psychologiquement et physiquement. Comme je le disais, au fil du temps, il la traque, il la culpabilise. Enfin, tous les mécanismes de la perversion narcissique, c'est-à-dire qu'il la culpabilise, c'est toujours de sa faute. Il renverse toujours la vapeur. Et elle, ce qui est
dérangeant,
mais ce qui est aussi remarquable dans son jeu, c'est qu'elle joue extrêmement bien toute une gamme d'émotions comme la peur. Moi, j'avais peur avec elle. Enfin, c'est-à-dire que elle incarne la peur. Et d'ailleurs, j'ai écouté et lu des interviews d'elle. Elle disait, mais moi, je me mettais dans une situation où j'avais peur, en fait, pour pouvoir jouer ça. Elle joue extrêmement bien le désespoir et on la voit complètement dépossédée d'elle-même. Elle n'est plus du tout sujet, elle devient objet, elle étouffe. Et ce sont des femmes, des figures de femmes qui vont être des bouées de sauvetage. J'en dis pas plus. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de le voir, mais en tout cas, pour le jeu d'acteur, vraiment... c'est extrêmement brillant et donc c'est pour ça que je le recommande.
L'amour et les forêts, un film de Valérie Donzelli. Éric Dupri, vous nous faites un peu redescendre la pression là, on va souffler avec vous, on va se balader à Toulouse et on s'arrête à la librairie Gambetta, c'est ça ?
La librairie Gambetta, c'est le titre du livre d'Yves Charnay, mais la librairie en question, pour ceux qui connaissent, c'est Ombre Blanche. Ombre Blanche, il y a une des plus grandes librairies Agnès connaît, indépendantes visiblement. De France. Celle qui reste, ben oui, vous savez, dans le sud-ouest, il y en a deux. Il y a Mola à Bordeaux, il y a Ombre Blanche à Toulouse. Hein. Ombre Blanche qui existe maintenant depuis près de 50 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que Christian Torel l'a créé, fondé en 1975.
Donc le libraire de Gambetta, c'est Christian Torel.
C'est Christian Torel, oui, oui. Ben là, je ne fais pas d'outing, hein. On sait que c'est lui. Grand ami de l'auteur Yves Charnay depuis 1996, parce que Charnay, dans ce livre, raconte leur rencontre et puis leur amitié. C'est vraiment un livre sur l'amitié, sur une relation d'amitié entre deux hommes, sur une relation qui est un peu, alors on peut pas dire de père à fils parce que ce serait exagéré, il n'y a pas une génération entre les deux, mais en tout cas de grand frère à petit frère. Charnay, il faut bien comprendre que c'est, je vais employer le mot parce qu'il l'emploie lui-même, c'est un bâtard, c'est-à-dire c'est un homme qui n'a pas eu de père, dont le père a abandonné la mère avant même la naissance, si vous voulez. Il est né à Nevers, il a grandi à Nevers, et en revanche il a eu... plusieurs pères ou oncles en littérature, notamment un qui a beaucoup compté, c'est Denis Tillinac, qui l'a lancé lorsqu'il était éditeur à la Table Ronde. Donc le premier livre paru s'appelle Prose du Fils. Prose du Fils. Le fils, c'est le fils de cette mère qu'il a adorée, qui est morte d'ailleurs il y a peu de temps. Et Torrell, il le rencontre en 1996, donc il a déjà commencé son entrée en littérature. Il en est aussi le responsable du pôle pédagogique, du pôle, pardon, art et culture de Super-Héros. Il a eu d'ailleurs parmi les étudiants Thomas Pesquet. Vous voyez, donc il baigne vraiment là-dedans. C'est un normalien, c'est un fou de poésie. Il est auteur.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce livre?
Alors, dans ce qu'il raconte dans ce livre, c'est cette relation avec Christian Torrell, leur rencontre, et puis la dépression qu'a fait Yves Charnay lorsque il a divorcé. Un de ses livres s'appelle Le Divorce. Et Torrell venait le lever presque, pas tous les jours, mais tous les deux jours, et lui faire faire une promenade pour le sortir de chez lui, parce que c'était une dépression vraiment profonde, les dimanches. Et après, il y a toute leur discussion sur la littérature. La relation n'est pas du tout la même que celle qu'il a pu avoir avec Tilinac. Il y a une phrase que je me suis notée qui est très drôle, c'est Torrell, c'est l'exact opposé de Tilinac, parce que bon, plus il est protestant, alors d'une famille protestante, plutôt un type discret, hygiéniste. Et il dit, on ne parle pas de cul avec Christian Torrell, pas de bouffe non plus. Il oppose ça à Tilinac. Il y a beaucoup de fantômes qui passent dans ce livre. Il y a celui de Tilinac, il y a celui de Michel Deguy, dont Yves Charnay était très proche. Et puis il y a des amitiés avec Pierre Bergougnou, avec Pierre Michon, et puis Nougaro. Ça commence, ça s'ouvre par les obsèques de Nougaro à Saint-Cernin en 2004. Et après, il va se réfugier chez Christian Torrell, puisque Nougaro a aussi été une des grandes amitiés de Charnay. Alors, ce que je peux juste préciser, c'est la façon dont Sylvain construit son petit livre. Parce que Charnay, c'est un écrivain du format court. Il n'a pas un style qui tient dans la durée, mais c'est quelqu'un qui a une écriture très dynamique. C'est comme des choruses de jazz. Là, c'est des petits chapitres très courts, de plus ou moins 2 pages, avec des petites phrases en exergue. Une écriture qui est très cinématographique, avec des jeux de mots, beaucoup de mots valises. Ça, c'est vraiment une des marques de Charnay. Et des références plus ou moins explicites à des titres de chansons ou à des titres de films, à des paroles de chansons. Charnay, c'est un passionné de variété. La variété des années 70, il adore Michel Sardou.
Ça fait un lien avec le prochain sujet.
Ouais, il adore Michel Sardou. Alors, ça va vous étonner parce que c'est un écrivain de gauche. C'est quelqu'un qui est très marqué à gauche, Charnay, et qui aime les chanteurs de droite, les écrivains de droite, les hussards. Ça, c'est la patte Tilinac. Son premier éditeur était Denis Tilinac, pas besoin de le citer politiquement. Vous voyez, et le titre, ce titre, il y a une bande-son. Le bande-son, c'est vraiment les années 70. Et je vais juste dire une petite phrase, si vous permettez,
supplémentaire qu'on trouve
dans le livre. C'est la meilleure définition de l'universel, une librairie.
Voilà. On aurait pu écouter Nougaro. On va écouter une bande-son qui correspond plus au sujet suivant. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Alors, Nina Simone, Feeling Good, ça fait partie de la bande-son d'un autre livre, Où la chanson va, de Sébastien Ménestrier. C'est votre choix, Agnès Manoratonil.
Oui, alors je vais commencer par faire un compliment à Eric et puis à François-Xavier qui est quelques fois avec nous. C'est très difficile de parler de la musique, de ce qu'elle nous fait. Dans cette émission, il y en a qui le font. Et Sébastien Ménestrier choisit de le faire un petit peu de façon décalée. C'est-à-dire qu'il a choisi un certain nombre de musiques qui lui plaisent. Donc là, Feeling Good, il y a aussi Alain Bashung, il y a la 4e symphonie de Brahms, il y a du Bartok. Et pour dire ce que cette musique lui fait, il invente des petites histoires très courtes, 5-6 pages, on pourrait dire des nouvelles, qui ne sont pas une description du morceau, mais qui vont chercher ce que cette musique lui a fait très en profondeur. Et c'est souvent des histoires de fêlures, de blessures, mais aussi d'ouverture vers quelque chose de magique, de plus grand, qu'on ne peut pas dire autrement que par la musique. Alors Sébastien Ménestrier lui-même est musicien, il a été chanteur, il est pianiste, professeur de piano et écrivain. Il avait écrit aussi un très joli roman qui s'appelait Le Suivant chez Buchet-Chastel. Alors je crois que je vais vous dire par exemple les deux nouvelles que j'ai préférées. Alors il y en a une qui naît d'une certaine façon de l'album Chatterton d'Alain Bashung et qui raconte comment un gars qui vit dans une cabane au fond des bois trouve un jour Alain Bashung sur le bord de la route et il l'emmène. Ils vont passer d'abord voilà un bon moment ensemble et puis en fait il le séquestre parce qu'il adore Bashung.
Avoir Alain Bashung chez soi.
Voilà, il a soi. Alain Bashung chez lui. Alors il cause musique, ça tourne un petit peu mal, mais à la fin Alain Bashung s'enfuit et en fait on touche vraiment du doigt d'une certaine façon la trajectoire de Bashung, ce que sa musique nous fait, c'est-à-dire la traversée d'une profondeur et puis la possibilité quand même de se libérer malgré tout, même si on est un peu cassé de partout, mais on a gardé les bottes de cow-boy, ça c'est très important. Et puis une autre nouvelle, alors plutôt sur le côté classique, qui elle est inspirée des danses hongroises de Bartok, et dans laquelle une jeune fille fait payer très cher le fait de chanter une chanson pour un chercheur en ethnologie qui vient enregistrer des chansons folkloriques, et elle ne se laisse pas faire comme ça, elle ne se laisse pas prendre sa musique si facilement. C'est extrêmement bien écrit. On a à la fin du livre un petit QR code, ce qui fait que voilà,
on peut écouter les chansons,
et on se dit qu'on a envie de faire pareil avec sa propre playlist et avec les chansons qui nous portent et qu'on écoute mille fois.
Alors moi j'ai été voir la playlist de Sébastien Ménestrier pour son livre Où la chanson va. Il y a aussi Lassa, très jeune.
C'est Lassa qui est en ouverture en fait du recueil.
Alors on écoute Lassa. Lassa, extrait de la bande son du livre Où la chanson va de Sébastien Ménestrier. On l'a pas dit, c'est dans une petite maison, une maison, honorable maison d'édition suisse qui s'appelle
Zoé.
Zoé.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Agnès Manoretonil, on vous tient, on vous quitte pas. Avec vous, on va aller se promener au Quai Branly, le musée Jacques Chirac, on dit maintenant. Il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Ouvrir l'album du monde. C'est une exposition de photographies. Donc vous étiez curieuse de voir ces très vieilles photographies.
Oui, des très vieilles photographies. Les premières, en fait, qu'on voit dans l'exposition datent de 1839, c'est-à-dire l'année de l'invention, de la mise au point des premiers daguerréotypes. Et c'est la première chose qu'on apprend dans cette exposition, qui n'est qu'un choix des plus de 700 000 photos du fonds photographique du musée du Quai Branly. C'est que dès l'invention de la photographie, des chambres noires ont été emportées sur les navires d'expédition scientifiques, officielles. Et en regardant toutes ces photos qui ont été prises en Asie, aux États-Unis, en Afrique, partout, on mesure en fait le progrès de ce médium, de cette technique, et on apprend aussi que, alors contrairement à ce que j'imaginais en arrivant à l'exposition, la photographie n'a pas été délibérément un instrument du colonisateur pour figer les populations à une époque de grande expansion coloniale dans le statut d'objet. Non, pas du tout. On découvre notamment qu'il y a des studios locaux qui se sont créés très vite, par exemple à Manille ou en Inde, avec des photographes locaux qui se sont servis de la photographie pour les besoins et l'envie des populations locales, alors évidemment plutôt des élites. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on apprend. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la soif d'image dont on pense qu'elle est notre pire péché aujourd'hui, manifestement, ça fait longtemps, cette invention-là a tout de suite été utilisée et très utilisée, évidemment avec les limites de la technique. Alors on apprend par exemple que pour la première photo du palais du gouverneur à Uxmal au Yucatan, il a fallu un équipement de 1 tonne et 40 personnes pour porter le matériel au lieu de la photographie. Donc ça, c'est quand même... on a progressé hein, pour la légèreté
bon,
des équipements.
Vous avez quelques réserves sur cette exposition, Agnès?
J'ai les mêmes réserves que j'ai de façon générale sur le musée du Quai Branly, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites trop tard. Celles qui sont dites trop tard, c'est qu'un certain nombre d'objets qui ont été photographiés ou de situations n'auraient pas dû l'être pour des raisons que c'était par exemple des cérémonies sacrées ou des objets qu'on ne prend pas en photo. De la même façon, il y a des portraits qui sont maintenant nommés, mais qui à l'époque ont été des portraits qui ont été faits avec l'intention de prendre en photo un type ethnographique, donc une réduction de la personne à l'état d'objet, et on peut penser que...
Des photographies racistes.
Des photographies racistes, et un certain nombre de ces photos correspondent très exactement à la période des os humains. Beaucoup de monde a vu le film D'Ilylia à Paris, oui. qui nous raconte ça, et je ne comprends pas qu'il faille attendre les cartels de la dernière salle pour lire en fait les réserves des deux commissaires de l'exposition. Et un jour peut-être on parlera
du Quai Branly et des réserves qu'on peut avoir sur ce musée. Il n'empêche, si vous voulez voir des photos très anciennes, vous commencez par la fin de l'exposition, comme ça vous lisez les cartels. Ça s'appelle Ouvrir le monde, c'est au Quai Branly. Autre exposition sans réserve cette fois-ci, c'est à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Alors c'est vous qui êtes allé la voir. C'est une exposition qui sera consacrée à l'œuvre de Degas, mais non pas la peinture, mais plutôt les dessins, les gravures, les estampes.
Des photographies en noir et blanc.
Exclusivement du noir et blanc.
Ce qui est très, très atypique, très original et très inattendu. Et le résultat est très réussi. Et je commencerai par une petite citation de Degas lui-même qui a dit « Si j'avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc ». Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on pénètre, dans cette exposition, qui est un parcours chronologique et thématique. Il y a 160 œuvres et donc parmi elles, donc il y a des estampes, comme je disais, des dessins, des croquis, des photographies. Et ce sont des œuvres qui viennent de la collection de la BNF, mais aussi de divers musées français et étrangers. Et c'est une exposition, je dirais, très délicate. Alors, on retrouve les motifs chers à Degas, c'est-à-dire des scènes à l'opéra, des scènes dans les vies bourgeoises, des scènes de femmes faisant leur toilette. C'est une certaine vie quotidienne. Et c'est vraiment une expo qui vaut le coup. Et on voit à quel point Degas aussi a eu recours aux dessins, aux estampes, etc. pour parfaire sa technique artistique, mais aussi pour découvrir ou parcourir ou approfondir le rapport à la lumière, au clair-obscur, dans ces jeux de noir et blanc. Et en ça, je trouve que cette exposition permet de mieux comprendre son œuvre.
Voilà, Degas en noir et blanc, c'est à la BNF. On n'a pas dit le nom du commissaire, mais il est prestigieux. C'est Henri Loirette, c'est l'ancien directeur du musée du Louvre. aurez reconnu Roberto Lagna qui chantait la sérénade de Don Giovanni de Mozart. Roberto Lagna qui vient de fêter ses 60 ans et qui sera l'un des clous du Festival de Toulouse dont vous nous parlez maintenant. Éric Dupri, le Festival de Toulouse, ça commence le 1er juillet.
C'est du 1er au 13 juillet, ben voilà, les vacances scolaires. Et puis vous avez presque deux semaines de festival à Toulouse. L'an dernier, c'était en plein air. Et puis Julien Martineau, le fondateur et directeur artistique du festival, qui va d'ailleurs accompagner à la mandoline Roberto Lagna lors de son concert, bon, s'est rendu compte qu'avec la canicule l'année dernière, c'était quand même un peu risqué de refaire l'expérience, d'autant plus qu'installer de la technique et puis un plateau en extérieur, bah, ça coûte très cher. Donc cette année, ça sera dans les salles toulousaines, notamment à l'Opéra National du Capitole pour le récital de Roberto Lagna, qui va chanter de grands airs d'opéra accompagnés à la mandoline par Julien Martineau ou au piano par Yvan Cassard. On aura Philippe Catherine en ouverture le 1er et le 2 juillet
au Casino
Barrière,
hein.
avec l'Orchestre National du Capitole. Alors c'est pas une première avec un orchestre symphonique pour Philippe Catherine, puisqu'il a, bon, en fait, ils vont reprendre le programme qu'il avait déjà montré, présenté avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France il y a à peu près un an, je crois. On aura des concerts de musique de film, les musiques de John Williams et Hans Zimmer. On aura une proposition très intéressante, un duo de musiciennes violoncelle et piano avec une plasticienne qui dessinera en même temps qu'elles joueront les pièces de leur concert.
Concert dessiné.
Ça sera, ouais, Créatrice, ça s'appelle, le 5 juillet. La plupart des concerts ont lieu à Saint-Père des Cuisines. On aura en clôture une carte blanche à San Severino. Alors c'est très très éclectique, il y a du classique, il y a du jazz, il y aura du jazz avec le pianiste cubain Rolando Luna avec son trio. Rolando Luna, c'est un ancien du Buena Vista Social Club. Et donc ça sera un hommage au Buena Vista Social Club qui donnera lui aussi à Saint-Pierre des Cuisines le 6 juillet. On aura Jean-François Zigel, l'inévitable Jean-François Zigel, il adore venir à Toulouse, qui accompagnera un ciné-concert. Il improvisera sur des films de Laurel et Hardy à la Cinémathèque. Et le lendemain, il fera des portraits à emporter à Saint-Pierre des Cuisines. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se seront proposés, ils seront tirés au sort et il fera leur portrait en musique en improvisant. Vous savez que c'est un super improvisateur. Et voilà, et les gens pourront repartir avec l'enregistrement de ce qu'il aura improvisé pour eux.
Mais il fera leur portrait, ils auront donné des éléments sur leur biographie, c'est ça?
Je ne suis pas certain. Je ne sais pas. Je pense que c'est en les regardant.
Ah, les
alors, est-ce qu'ils auront donné des éléments?
À la tête, ouais, du client.
Bah, c'est portrait en musique. Alors, vous savez, je ne sais pas. Est-ce qu'ils auront donné quelques informations? Ouais, il y en a qui apparaîtront. Quoi qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop. Il verra si c'est un homme, une femme, quelqu'un d'âgé, quelqu'un de jeune. Vous voyez.
Bon, il y a
13 concerts.
Ce que ça 13, va concerts. Donner, 13 concerts. Et parmi eux aussi, le Quatuor Modigliani.
Ah oui, le Quatuor Modigliani, très important, j'oubliais, qui fête ses 20 ans cette année. Alors, il y a deux grands quatuors. Il y a beaucoup de quatuors à cordes en France. Hein, c'est une spécialité bien française. Mais il y a notamment le Quatuor Ébène et le Quatuor Modigliani, qui est le plus ancien des deux. Il y a un Toulousain, d'ailleurs, dedans. Il y a beaucoup de Toulousains, quand même, dans la programmation. Et ils vont fêter, donc, cette année, leurs 20 ans. Il y aura un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ça, c'est, que je dise pas de bêtises, le 8 juillet. Et ils vont jouer La jeune fille et la mort, le célèbre quatuor de Franz Schubert.
Et on en écoute quelques notes.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Et ce festival de Toulouse se tient du 1er au 13 juillet. On a compris l'éclectisme de la programmation dans cette bonne ville de Toulouse. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible, tous ceux qui étaient autour de moi. À Toulouse, Éric Dupri. À Paris, Agnès Manoret-O'Neill de la revue Études. Anne-Laure Filleul de l'hebdomadaire La Vie. Tout ça sous la houlette de Pierre Samanos qui a réalisé les émissions. Bien sûr, je vous dépose une petite citation. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. C'est Camus dans L'été, retour à Tipassa. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end.